Le ministère de Calvary Chapel. Une des caractéristiques, c'est d'étudier la Bible livre par livre et verset par verset. En demandant à l'Esprit Saint, bien sûr, de nous le rendre vivant et de nous aider à l'appliquer dans notre vie. Et c'est vrai qu'en fait, quelques personnes disent des fois, mais ce n'est pas des sermons que vous faites, ce sont des études. Mais qu'il en soit ainsi, nous aimons étudier la parole de Dieu. Nous avons aussi des fois des messages par sujet pour exhorter sur un sujet ou sur un autre, mais notre habitude, c'est de progresser régulièrement. Un des avantages, c'est que j'ai pas à me creuser la tête, à m'angoisser pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que j'enseigne dimanche prochain. Il y a des fois, c'est pas facile si on se sent pas vraiment inspiré par un message. Mais aussi, ça me permet de pas me cantonner à mes sujets favoris. Et l'idée, c'est que comme Paul le disait aux anciens à l'église d'Éphèse, il leur avait annoncé à Milet, il leur avait annoncé tout le dessein de Dieu. Et de la sorte, nous sommes amenés des fois à étudier les passages sur lesquels on préférait un peu aller plus vite ou sauter. Il y a des passages qui ne sont pas nécessairement agréables à recevoir.
Some of them aren't very pleasant.
Mais souvent, c'est ceux qui nous font le plus de bien. Et nous savons que toute écriture, tout verset, toute parole que l'on trouve dans la Bible est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner,
and it's useful for teaching,
pour convaincre,
to convince people,
pour redresser,
to rebuke them,
pour éduquer dans la justice.
To educate them in justice.
Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que Dieu a à nous dire au sujet de la discipline dans l'Église. Nous sommes arrivés au chapitre 5 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et encore une fois, nous savons que la lettre aux Corinthiens, c'est pas destiné à nous servir à nous dire voilà l'église des Corinthiens, c'était un modèle d'église, voilà ce qu'il faut faire. Au contraire, Paul s'adresse aux Corinthiens pour corriger des problèmes qui se passent au milieu d'eux. Ils pensaient être très spirituels, mais en fait, ils étaient encore très charnels. Ils étaient sauvés par la foi, certes, mais ils étaient encore trop dominés par leur vieille nature pécheresse. Se croire spirituel quand on est toujours charnel, c'est un danger qui nous guette tous. Comme beaucoup de défauts, c'est quelque chose qu'on remarque plus facilement chez l'autre que chez soi-même. Ils avaient tendance à se remplir d'orgueil, à la recherche de la sagesse humaine. Ils voulaient la gloire qui vient des hommes. Un des premiers problèmes dans l'église de Corinthe, c'était les divisions. Chacun cherchait à se rattacher à un clan. Il y en a qui disaient, moi je suis d'Apollos. Moi de Paul. Non, mon pasteur, moi le vrai, le puissant, c'est Cephas, c'est-à-dire Pierre. Puis d'autres qui se pensaient vraiment spirituels, moi mon pasteur c'est Jésus-Christ. Et Paul leur dit que non, c'est pas ça l'Église. Il doit y avoir l'unité, il doit y avoir l'amour. Paul, c'est aujourd'hui la fête des pères, il se considérait comme leur père spirituel. Et il cherche, il va exercer une discipline dans l'amour. Pour nous tous qui sommes pères, hein, des versets dans les Proverbes sont très forts. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur nous parle de... Ça, c'est dans Hébreux 12, 5. On peut regarder ensemble. On ne connaît pas avec certitude l'auteur de cette lettre. On ne sait pas si c'est Paul, Apollos ou quelqu'un d'autre. Mais nous savons que c'est une lettre inspirée par l'Esprit Saint. Et verset 5, il est dit: vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge, de bâton, tout fils qu'il reçoit, qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils.
What son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons.
Nous avons déjà vu à la fin du chapitre 4 dans quel esprit Paul abordait cette discipline.
So at the end of chapter 4, we saw exactly what type of spirit Paul treated this discipline.
Verset 14, il disait aux Corinthiens: ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Donc avant d'exercer la discipline, il leur rappelle son amour. Il leur présente un modèle. Il leur dit, verset 16, je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. Si nous marchons à la suite du Seigneur, nous devrions être capables de dire aux gens: imitez-moi. Et souvent, si on est très mal à l'aise quand on pense à dire ça, c'est parce qu'on ne suit pas le Seigneur comme il le désire. Mais Paul, en toute humilité, pouvait dire: suivez-moi. Et puis finalement, il leur laisse toujours la liberté de choix. Verset 21, le dernier verset du chapitre 4. Que voulez-vous, que j'aille chez vous avec un fouet ou avec amour et dans un esprit de douceur? Et puis, verset 19, il leur dit qu'il verra ce qu'est la réalité. Le dernier résultat, c'est de laisser les gens voir la réalité de leurs actes, des conséquences de leurs actes. Mais nous allons lire ensemble le chapitre 5, c'est un chapitre court de 13 versets. C'est page 189 dans la Bible à la colombe, dans le Nouveau Testament, pour ceux qui auraient besoin de trouver le passage. Je lis donc dans la version à la colombe, chapitre 5, 1 Corinthiens. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Amen. Paul va nous donner, en gros, trois raisons pour lesquelles il faut exercer la discipline au sein de l'Église. La première, c'est pour le bien du coupable. Il y a un problème d'immoralité sexuelle dans l'Église. Vous vous souvenez, nous avons dit en introduisant la lettre que Corinthe était une ville réputée pour son immoralité. C'était la capitale économique de la Grèce. C'était le plus grand centre commercial du monde romain à l'époque. Donc avec ça, il y avait beaucoup de commerce, de trafic. Des trafics commerciaux, puis des trafics qui n'étaient pas honnêtes. C'était riche, cosmopolite, et corrompu. Au point que, en latin, pour dire mener une vie de débauche, on avait formé le mot corinthianisé. Le grand monument, ce n'était pas la tour Eiffel, ou le Negresco. Il y a à Nice un temple de l'amour, et là-bas c'était le temple d'Aphrodite, celui de Vénus, la déesse de l'amour. Et on raconte qu'il y avait près de 1000 prostituées mâles et femelles qui aidaient à rendre un culte à cette déesse de l'amour. Le mot qui est traduit par inconduite ou immoralité sexuelle, en grec c'est le mot porneia, d'où vient le mot pornographie. Et l'immoralité sexuelle, ça recouvrait en fait toute relation sexuelle qui s'exerçait en dehors des liens sacrés, du cadre des liens sacrés du mariage. Ça pouvait être la prostitution, l'adultère, l'homosexualité, la bestialité, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous vivons dans un monde qui n'est pas bien loin du monde de Corinthe, en fait. Notre société occidentale est saturée de sexualité. Ça semble être le ressort le plus fréquemment utilisé en publicité. Et aujourd'hui, lorsque les gens ont des relations sexuelles en dehors du mariage, la question c'est, où est le problème? Tout le monde le fait. Il suffit de regarder la télé, de regarder autour de nous. Où est le problème, c'est vrai? Le problème, c'est que Dieu dit que c'est mal. Le prophète Ésaïe disait que c'était terrible lorsque on appelait bien le mal et mal le bien. Il y avait dans cette église, non seulement dans, en général, des problèmes d'immoralité. Mais Paul leur écrit parce qu'il y avait un scandale dans l'église. Il y avait un homme qui avait un chrétien, donc, qui se disait chrétien, qui avait la femme de son père. Ça veut dire que c'était la femme de son père, c'était sa belle-mère. Pas sa mère, du moins on l'espère. C'était un cas d'inceste notoire. Il ne s'agissait pas d'une rumeur. De on dit mal fondé. Du genre, oui, j'ai vu un tel avec... Il y avait une femme dans sa voiture. Ça nous rappelle qu'il faut se garder de toute situation qui pourrait donner l'apparence du mal. Mais là, il n'y avait pas de doute à avoir. La femme, on va voir que Paul ne parle pas d'elle, donc elle devait être incroyante. Et l'inceste, c'était quelque chose qui était interdit chez les Juifs. Dans le Lévitique, il y a plusieurs passages qui disent que, par exemple, Lévitique 20:11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Mais ce qui était pire, c'était que non seulement c'était quelque chose qui ne devait pas être fait chez les chrétiens, mais même chez les païens, c'était une chose inimaginable. On dit que Cicéron, l'orateur politique bien romain, bien célèbre, disait que l'inceste était un crime incroyable et pratiquement inexistant. Nous vivons dans une société où on commence à parler de l'inceste. Où on commence à parler de la pédophilie. Pédophilie. Mais ce sont des choses horribles qui sont une abomination devant l'Éternel, devant Dieu. Dieu nous préserve de ce genre de péché. Paul leur reproche deux choses. Il leur reproche cette immoralité, mais surtout ce qu'il va leur reprocher, verset 2, c'est leur laxisme. Vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Verset 2. Toujours cet orgueil mal placé. Paul leur dit que devant une telle chose, vous auriez dû avoir un chagrin comme on a devant un deuil. Si vous avez déjà fait l'expérience de la mort d'un être cher, vous connaissez l'abattement qui est sur vous, le mal de tête presque, les yeux qui n'en peuvent plus de pleurer, l'engourdissement, la
dépression.
C'est les sentiments que les Corinthiens auraient dû avoir devant cette immoralité flagrante. Et le comble, c'est que ils étaient fiers. Ils étaient fiers parce que ils pouvaient dire, nous on a les idées larges. On n'est pas comme ces gens légalistes qui condamnent. Non, nous, on tolère, on aime. On peut leur montrer on peut les montrer du doigt, mais combien de fois aussi dans nos églises, on ne veut pas être pris du mauvais côté du légalisme.
We don't want to be considered as legalistic ourselves.
Alors on a tendance à aller du côté du laxisme.
So we go towards laxism.
C'est vrai que la tolérance, cette réaction, ça peut être cette attitude, ça peut être une réaction à l'erreur qui consiste à juger sévèrement. De façon presque hypocrite. En critiquant chez l'autre le péché qui est chez moi. En le blessant par mes remarques méchantes. En ne lui laissant aucun espoir. Et ça peut être un extrême, c'est pas ce que le Seigneur veut. Mais le Seigneur ne veut pas que nous prenions ces choses à la légère. Dans notre monde aussi, c'est vrai que il suffit de regarder la télé. On voit les militants de l'homosexualité. On les voit se pavaner à la télévision, se vanter de leur homosexualité, de leur bisexualité, avec les applaudissements des spectateurs, les animateurs complices de cet état de cette façon de penser. Et si quelqu'un a la remarque a le malheur plutôt de faire une remarque un peu critique, alors c'est les sifflets, c'est la mise à l'écart. Il faut qu'il y ait une tristesse selon Dieu devant le péché. Un des problèmes du péché dans l'Église, dans ma vie, c'est qu'il peut arriver progressivement, de façon imperceptible. C'est un peu l'histoire de la grenouille. Si on la met dans l'eau froide, dans une casserole remplie d'eau froide, et que l'on on fait chauffer lentement l'eau, elle va progressivement se trouver à l'aise jusqu'à ce qu'elle en meure. Si on essaie de la tremper dans une casserole d'eau bouillante, elle va réagir violemment, se débattre et s'échapper, en fait, même en se brûlant, mais s'échapper. Et le même problème avec le péché qui commence progressivement. Ce que je n'aurais jamais pensé faire il y a 6 mois, peut-être ça me paraît moins énorme aujourd'hui. Et nous devons demander au Seigneur de nous donner ce discernement spirituel. La parole est là pour nous montrer ce qu'est le péché. Alors là, nous parlons du problème de l'immoralité sexuelle. Peut-être qu'on se dit, moi j'ai pas vraiment ce problème. Ou j'ai peut-être des pensées, mais je passe pas à l'acte. Mais nous allons voir plus loin qu'il n'y a pas que ce genre de péché. Il y a les péchés dans le cœur, d'attitude de haine ou de manque d'amour vis-à-vis de ceux qui nous entourent. On peut endurcir notre cœur. Il faut la discipline du Seigneur pour nous réveiller, pour nous secouer, pour nous reprendre. On va voir 2 Corinthiens 7. Paul, dans cette deuxième lettre qui nous est connue, parle de la première lettre. Et il leur dit, si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Verse 8. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et c'est vrai qu'on peut des fois être triste de s'être fait prendre. Ça, c'est la tristesse du monde. Zut, je me suis fait piquer. Et on est triste parce qu'on n'a pas été assez habile. Ça, c'est pas la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu, c'est celle qui va produire vraiment un désir de demander pardon, un désir de changer. Prions que ce soit ce genre de tristesse qui prenne nos cœurs quand nous péchons et que nous sommes repris par le Seigneur ou par les autres. Alors on va me dire Matthieu 7, Jésus dans le sermon sur la montagne a dit « Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. » Vous connaissez le fameux épisode de la poutre et de la paille dans l'œil, Matthieu 7, 1 à 5. Jésus nous dit, c'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Parce que bien souvent on voit pas le truc énorme dans notre vie, mais on voit la petite chose dans la vie de l'autre. On va faire tout un cinéma à l'autre parce qu'il a une paille dans l'œil. Mais nous, c'est comme si on a une poutre énorme qui nous traverse le crâne. Et on veut donner des leçons de morale. Alors, souvent on dit, ah, juger, il ne faut pas juger. Même dans notre société, la tolérance est la vertu cardinale. Puis même une fois qu'on a attrapé le coupable, les cours se chargent de lui donner des circonstances atténuantes. Au point que les policiers n'ont même plus envie d'arrêter les gens, ils savent que quelques semaines plus tard, ils les retrouveront dans la rue.
And that's why the policemen don't arresting people anymore because they know that a few weeks later they'll find them in the road in the streets again.
Lorsque Jésus dit de ne pas juger afin de ne pas être jugé,
when Jesus tells us not to judge, that we won't be judged,
il nous parle du jugement des motivations profondes des gens.
He also speaks about the judgment of a deep motivation.
Nous ne pouvons pas connaître ce qui est dans le cœur de l'autre.
Because we can't know exactly what other people have in their hearts.
Mais nous pouvons et nous devons juger les actes des autres chrétiens.
But we can judge their acts.
C'est la discipline.
And this is discipline.
Alors il ne s'agit pas d'être là comme un agent secret ou un détective privé. Mais s'il y a des choses évidentes qui sont contre la volonté de Dieu, il nous appartient de commencer une œuvre de discipline. En tant qu'Église, il ne s'agit pas que des responsables se réunissent et puis disent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour ce type-là ou cette femme? On va faire n'importe quoi, on va... Non, non. Il y a une autorité qui est investie dans l'Église par Jésus. Paul dit qu'il est absent de corps, il n'est pas avec eux, mais il est présent en esprit. Et il l'explique pourquoi, parce que verset 4, au nom du Seigneur Jésus, la fondation. Vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Et Jésus lui-même qui nous dit de ne pas juger afin de ne pas être jugé, nous a donné une procédure à suivre. Qu'on trouve dans Matthieu 18, verset 15 et suivant, si vous voulez vous y tourner. Nous allons rappeler cette procédure. Matthieu 18, 15. Le premier verset. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Quatre étapes. Vous êtes amené à prendre connaissance par accident ou parce que la personne vous en parle. Une personne. Ton frère a péché.
You know that your brother has sinned.
Pas besoin d'en parler à tout le monde.
It's not necessary to speak to everyone.
De faire des réunions de prière.
To pray about this person's sin.
Allez le voir personnellement.
Go and see this person.
Lui expliquer que son attitude ne peut pas continuer selon Dieu.
Explain to this person that he cannot continue in this way according to God's word.
Et ça peut s'arrêter là.
And this might just be the end of it.
Et personne d'autre n'a à en savoir rien du tout, n'a rien à en savoir.
And that way nobody else in the church has to know about anything.
Maintenant, si cette première étape n'aboutit pas, si la personne continue dans le péché, il faut prendre des témoins avec soi, une ou deux personnes. Donc de préférence des chrétiens que vous respectez, que ce soit des anciens ou des amis qui sont des chrétiens mûrs. Et l'idée, c'est d'éviter les disputes. Du genre, tu m'as dit non, tu m'as pas dit, c'est moi qui t'ai pas dit non, c'est pas vrai. Là, il y aura des témoins. Et l'idée encore, c'est pour d'aider la personne à voir la gravité de son péché. De l'amener à cette repentance dont parlait Paul dans 2 Corinthiens. Et là aussi, l'affaire peut s'arrêter là et tout est très bien.
Again, right there,
ça c'est très sain, c'est très bon.
And this is what the Lord commands us to do, it's good.
C'est jamais tellement populaire ce genre de choses.
But obviously, this is never very popular.
On n'aime pas s'identifier du côté de la loi.
We don't like to identify ourselves with the law.
Mais là, c'est, encore une fois, c'est l'amour qui doit prédominer.
Once again, love has to dominate here.
On va aider l'autre.
We have to help the other one.
Si ça continue, si la personne refuse de changer d'attitude, de conduite,
so if this person refuses to change,
alors il faut rendre la chose publique.
Then, it should be made public.
Et ça permet aux individus concernés de sentir que l'Église a une autorité morale. Que leur conduite n'est pas acceptable par les autres chrétiens. Et là aussi, il ne s'agit pas de le faire avec une attitude supérieure. Mais il faut être ferme et expliquer à l'Assemblée que cette personne a ce problème et que la situation ne peut pas continuer. Le fait que le problème soit maintenant public met une responsabilité sur l'Église aussi. L'Église doit prendre le relais dans la prière pour cette personne. Et chacun est responsable à sa façon d'aider la personne à changer de comportement. Et puis finalement, si la dernière étape, si la personne refuse toujours d'entendre raison, alors Jésus nous dit de le considérer comme un païen ou un collecteur d'impôts.
And Jesus tells us to treat him as you would a pagan or a tax collector.
Il y en a qui travaillent pour
pour
les impôts publics. Vous savez qu'à l'époque, les péagers, ou les collecteurs d'impôts travaillaient, c'était des collaborateurs avec le gouvernement romain. Et ils étaient l'objet de la haine des juifs qui étaient occupés. Mais l'idée, c'est pas de les haïr. C'est simplement de ne plus le considérer comme un chrétien. Mais comme un païen. La personne peut se dire chrétienne en parole, mais ses actes, cette persévérance dans une situation de péché montre qu'il n'en est rien. La personne a été trompée elle-même. Elle n'est pas née de nouveau. Bon, la galère. Et on peut prier pour sa conversion, pour sa repentance. La question, c'est de savoir, est-ce que ça veut dire que physiquement, on doit rejeter la personne en dehors de l'Église? C'est un peu l'excommunication. On rejette, on ne s'associe plus avec ces personnes. Certains pensent que c'est aller un peu loin de dire que c'est l'exclusion physique. Plus loin, Paul va dire qu'il ne faut même pas manger avec ces gens. J'aurais tendance à penser que les personnes ne peuvent plus assister aux réunions en commun. Ça ne veut pas dire qu'on coupe complètement les relations, au contraire. Le pasteur peut continuer à voir la personne, prier avec elle. D'autres amis chrétiens peuvent aussi prier. Mais souvent le problème ne se pose pas parce que si la personne est vraiment endurcie dans son péché, la personne va se mettre à l'écart d'elle-même.
The person himself will exclude himself.
Verset 5, Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça paraît très fort, ça. Paul a déjà livré des personnes à Satan. Est-ce que vous le saviez? Dans 1 Timothée, il est dit qu'il a livré Hyménée et Alexandre, qui étaient des faux chrétiens, des faux docteurs. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'on décide qu'ils n'ont, ils ne sont plus sauvés, qu'on leur enlève leur salut. Non, ce n'est pas l'Église qui donne ou qui reprend le salut. C'est notre foi en Christ et son sacrifice qui nous donne le salut. Par sa grâce. Donc un homme soit livré à Satan, ça veut dire un peu de le renvoyer dans le monde, qui est lui sous le contrôle de Satan. Il y a un auteur chrétien, Restenman, qui dit il s'agit de permettre à la personne de découvrir, d'apprendre que les philosophies de vie du monde sont trompeuses. Deceptive and empty. Et lorsqu'ils arriveront à la fin d'eux-mêmes, alors c'est l'espoir qu'ils se retourneront vers le Seigneur Jésus-Christ. Et au jour du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le jour de son retour ou à leur mort s'ils décèdent avant ce retour, ils seront sauvés. Toujours exercer cette discipline avec amour et humilité. Galates 6:1 nous dit, c'était Paul qui nous disait, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, ça veut dire qui marchez selon l'esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » C'est un problème aussi de réalisme personnel. Il ne s'agit pas d'aller vers les gens en disant « Comment tu as pu faire ça ?» Jamais je pourrais faire une telle chose horrible. Non, on peut dire qu'on comprend les tentations, les pressions, mais que l'attitude doit changer. On peut exprimer aussi le potentiel de faiblesse de notre vieille nature qui est toujours là. Et souvent, c'est le péché dans nos vies qui nous retient d'exercer cette discipline avec amour. On préfère le laxisme, laisser faire. Donc l'idée, c'est d'abord pour le bien de la personne, ensuite c'est pour le bien de l'Église elle-même. Dans les versets 6 à 8, il dit « Ah, vous êtes bien fiers de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. » Et il leur dit « Ne savez-vous pas qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte ? » Autrement dit, un peu de corruption affecte tout l'ensemble. Quand le péché commence dans l'Église, il a tendance à s'étendre. Les autres se disent, mais un tel le fait, on ne lui dit rien, ça ne doit pas être si grave. Vous vous souvenez de la Pâque des Juifs, de leur fuite d'Égypte? Ils devaient sacrifier cet agneau sans tache et répandre le sang sur leur maison pour être protégés de l'ange de la mort qui passait au-dessus. Et il devait aussi manger du pain sans levain, il n'avait pas le temps, le temps d'attendre que la pâte monte. Et depuis, c'était le levain, c'est toujours un symbole de corruption. Ou le plus souvent, c'est un symbole de cette corruption. Vous avez vu déjà la corruption dans un jardin? Si vous avez eu l'occasion de jardiner et voir les pissenlits, il ne faut pas les laisser traîner. Dandelions. Ou les fruits. S'il y a un fruit, un sac de fruits et un fruit, une mauvaise pomme, il ne faut pas la laisser au fond ou la cacher. Il faut l'enlever. Et il y avait cette tradition donc chez les Juifs, c'est l'origine un peu, on pense, du nettoyage de printemps, c'était de, à l'approche de la fête de Pâques, d'enlever et de s'assurer qu'il n'y avait pas de levain dans toute la maison. Christ est mort, non pas pour que nous soyons comme le monde, mais pour que nous soyons pareils à Dieu. L'église, ça doit être un endroit de sanctification. On est plus proche de Dieu parce qu'on participe, on vit la vie de l'église. Et Paul dit, on doit célébrer la fête, non avec du vieux levain, donc la fête de Pâques, mais avec, qui serait le levain du péché, de la perfidie, de la méchanceté. Mais il prend le symbole pour dire que ça peut être le levain de la sincérité et de la vérité. Lorsque les gens sont sincères, lorsque la vérité règne, c'est contagieux aussi. Et finalement, la discipline, elle est voulue pour le bien du monde extérieur. Quelqu'un a dit, l'Église ne peut pas changer le monde si l'Église est comme le monde. Amen. Paul fait une différence entre le péché des chrétiens et le péché des non-chrétiens. Et ceux des chrétiens sont pires. Vous savez même, je suis sûr que vous en avez tous fait l'expérience, que le monde attend plus des chrétiens des fois que les chrétiens n'attendent d'eux-mêmes. Paul leur dit qu'il avait écrit de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Alors eux, ils s'étaient dit, bon, il ne faut plus du tout parler aux gens du monde. Mais au verset 11, Paul corrige cette façon de voir et dit ce que je vous ai écrit, c'est pas d'avoir des relations avec quelqu'un c'est de ne pas avoir de relations avec des gens qui, en se disant chrétiens, soient débauchés ou cupides, idolâtres, insulteurs, ivrognes ou accapareurs, même de ne pas manger avec un tel homme. Les chrétiens doivent être un peuple séparé, ça ne veut pas dire un peuple isolé. Nous devons avoir des relations avec les non-chrétiens, sinon il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas de témoignage possible. Mais il faut juger ceux qui sont à l'intérieur. Le dernier verset, c'est Dieu qui va juger ceux du dehors. Au verset 11, il parle en fait de trois genres de péchés. Il y a les péchés du corps, comme l'immoralité. Ça, c'est des péchés contre soi-même. Il y a les péchés, on pourrait dire les péchés de l'âme, des émotions, c'est les attitudes. Là, il parle des gens qui sont cupides, qui veulent plus. Ça, c'est un péché contre les autres. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler le péché de l'esprit, c'est l'idolâtrie, ce sont les autres dieux, c'est un péché contre Dieu lui-même. Donc on voit qu'en fait la discipline, elle n'est pas cantonnée seulement à l'immoralité sexuelle, elle doit nous toucher dans tous les domaines. Ceux du dehors, Dieu les jugera, verset 13. Expulsez le méchant du milieu de vous. La discipline, elle doit d'abord commencer, c'est pas dans ce passage, mais elle doit d'abord commencer par nous-mêmes. Nous examiner devant le Seigneur personnellement. Puis ensuite, elle doit s'adresser aux autres, mais avec amour, humilité. C'est difficile. Et souvent, à cause du risque, on préfère ne pas aborder ce genre de démarche. Personnellement, il y a quelques années, nous avons perdu la moitié de notre petite congrégation. Parce qu'on avait confronté deux personnes qui vivaient ensemble en dehors du mariage. Et la personne me disait, mais si tu appliques ce genre de choses, tu vas pas avoir de monde. J'avais répondu, mais c'est pas pour avoir du monde qu'on est là. C'est pour faire des disciples. Amen. Et lorsque la discipline est exécutée, est adressée de la façon dont Dieu le veut, elle peut être une chose formidable. Quelqu'un disait, ce qui amène la joie dans une congrégation, ce n'est pas le sentiment d'avoir atteint un certain niveau de moralité. Ce qui donne de la joie communicative, c'est d'avoir été lavé, pardonné, de se sentir libéré par la grâce de Dieu. La laideur du passé a disparu. On est libre de célébrer dans la joie notre vie en Christ. Et vous savez que la discipline de l'Église, même si elle n'est pas populaire, elle n'est ni facile, elle est efficace. On va terminer en lisant 2 Corinthiens 2. À partir du verset 4, c'est dans une grande affliction, le cœur serré avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Toujours cette première lettre. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc, à faire prévaloir l'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en tout. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Autrement dit, cet homme qui était dans le péché, que les responsables, que l'Église ne voulait pas confronter, Ces versets nous portent à penser qu'ils ont exercé la discipline, qu'ils ont même été un peu trop loin. Mais la discipline a été efficace. Et maintenant, Paul leur dit de réaccueillir cette personne. Et ça, ça doit être le critère de la discipline. Ça ne doit jamais être pour détruire, mais pour restaurer. Amen. Quelque chose que nous n'aimons pas tellement pratiquer, c'est des sentiments durs. Mais ça fait partie des responsabilités des chrétiens. Amen. Prions. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais ce qui se passe dans notre sein, dans l'Église au sens large. Tu sais, c'est vrai que, influencés par le monde, nous avons tendance à ne pas vouloir confronter ces problèmes de péché au milieu de nous. Nous prions pour que d'abord tu nous donnes discernement pour voir le péché dans notre propre cœur. Que tu nous donnes la force de nous en séparer, Seigneur, d'être vainqueurs par ta puissance. Seigneur, nous te demandons aussi le courage et la force d'exercer cette discipline selon toi. Pas pour nous glorifier de notre spiritualité, mais pour le bien de la personne, le bien de l'Église, le bien du monde, et pour t'obéir, Seigneur. Veuille nous épargner. Nous savons, Seigneur, que ces genres de choses se produiront. Se sont produites déjà. Donne-nous ta sagesse et ton amour pour exercer cette discipline selon toi. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Ah, merci. Une nouvelle importante que j'avais complètement oubliée. Jeudi soir, nous baptiserons Aude à Aise-sur-Mer en compagnie de Eric Benevolo. Si vous voulez être présent, le rendez-vous c'est à 6h du soir. Oui. On peut s'y rendre en train. Si vous voulez voir pour trouver des transports en voiture, parlez aux uns et aux autres. Amenez un pique-nique.